Vous écoutez RTL.
RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchon.
Et à 19h17 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Avec le correspondant en France de l'agence de presse italienne ANSA. Bonsoir Paolo Lévy.
Bonsoir.
Avec le chroniqueur économique de RTL Christian Menanto. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Et l'éditorialiste du Figaro Yvan Youfol. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Ce sera donc à Myriam El Khomri de trancher. L'inspection du travail a retoqué ce matin donc le licenciement du délégué syndical d'Air France accusé d'avoir arraché la chemise du DRH. En octobre dernier, il sera d'ailleurs en poste dès ce soir. Air France a aussitôt déposé un recours auprès de la rue de Grenelle, donc tout à l'heure sur RTL. Éric Woerth dénonçait une ingérence de l'inspection du travail et des salariés syndiqués trop protégés. Si vous étiez ministre du Travail, vous feriez quoi ? Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret de LCI, bonsoir.
Bonsoir, ils ne sont pas d'accord entre eux, les internautes. Alino trouve cette réintégration profondément amorale. Les cinq ont fait une faute, pas de protection spéciale pour un délégué syndical. En effet, ce n'est pas un privilège, répond Robert, mais il n'en tire pas la même conclusion. Pour lui, tous doivent être réintégrés. Isma aussi trouve qu'on ne devrait pas être envoyé pour une chemise, alors que les patrons voyous, ils ne sont jamais inquiétés. Clémentine Autain salue une bonne nouvelle dans un monde de brutes, mais André lui répond qu'il faut justement les licenciés, les brutes, bah moi je lui souhaite du courage pour le reste de sa vie dans un placard à Air France, compatit Xander. France Libre accuse lui l'inspection du travail et la CGT d'être la même boutique. Très juste, à la CGT c'est l'impunité assurée. Quel signal envoyé à ces délinquants syndicaux, regrette Henri. On va voir si le gouvernement approuve qu'on coule les entreprises en toute tranquillité, s'énerve Kehler. On va voir surtout si la ministre respecte l'inspection du travail, seule apte à juger, sûrement pas la direction hors la loi, rétorque Nicolas pour finir.
Alors, Christian Menanto, on va commencer par ce que nous a dit Éric Woerth, qui trouve que ses salariés protégés le sont trop, c'est d'un autre âge, et que l'inspection du travail ferait mieux de s'occuper d'autre chose, et que vraiment pouvoir protéger simplement le délégué CGT, c'est vraiment aujourd'hui, ça nuit à la bonne marche d'une entreprise.
Alors, sur la deuxième partie, que l'inspection du travail puisse orienter ses forces vives vers d'autres actions, et en particulier le travail au noir et l'exploitation de certains ateliers qu'il y a tout autour de la région parisienne et des grandes métropoles de province, ça serait quand même quelque chose qui me paraîtrait de toute première urgence. La deuxième chose, c'est pourquoi le délégué CGT et pas ses quatre camarades, qui, eux, n'ont bénéficié d'absolument aucune protection.
C'est la règle.
Bah, c'est la règle. Donc, mais je trouve que la règle, en l'occurrence, là, pour le coup, s'il est démontré que tous les cinq ont participé également à cette espèce de mini-lynchage, il ne faut pas non plus exagérer, mais enfin, un cassage de gueule, moi, je pose la question...
Il va être jugé, par ailleurs, par le tribunal correctionnel
bien
de Bobigny.
Sûr. Hein, bah, oui, quand même, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, moi je suis assez réservé sur cette affaire, parce que j'imagine le scénario inverse, c'est-à-dire un DRH exaspéré par un délégué syndical quelconque, qui lui met une baffe, qui commence à l'insulter, qui lui arrache la chemise et qui lui dit « Tu rentres dans ton local syndical à poil ». Ben, qu'est-ce qu'on aurait fait de ce DRH ?
Il aurait été viré.
Je pense qu'il aurait été viré.
Pas d'accord.
Eh ben, voilà. Ça tombe bien, c'est un débat. Donc, si vous aviez été tous d'accord, je serais très ennuyé à ce stade du débat, Annie Lemoine.
Non, parce que là, l'inspection du travail, elle a fait son boulot, elle a regardé les images et elle a dit « Non, il n'y a pas la violence dont fait état Air France pour se séparer de ce salarié ». Elle a regardé les images.
Mais
c'est comme dans certains sports. Il y a des règles.
Aussi.
Et les règles, il faut les respecter. Et les images, elles parlent. Et c'est bien qu'il y ait ces
images.
Elles
ont parlé pour les deux. Oui, à la fois pour Air France et pour...
Alors, on se félicite que d'abord qu'un recours soit possible. Non, mais vive la France.
C'est pas une décision autoritaire et
incontestable. Et puis, effectivement, ça pose la question, comme le dit la CGT, des quatre autres salariés. Alors, moi, je vous dis rapidement une chose.
Non, la CGT aussi, si on peut se permettre, Christian. Il n'y a pas que vous qui posez la question ce matin, Miguel Fortin. Sur RTL, ce matin, à midi.
Je l'ai entendu.
Vous l'avez entendu.
Mais juste une chose. Il y a la violence qui
est... Il n'était pas le premier à se la poser.
Il y a la violence qui est filmée, et puis il y a celle qui ne l'est pas. Celle qui a été filmée, oui, c'est l'exaspération. Vous parlez d'un mini de lynchage, ça me paraît totalement abusif comme expression.
J'ai dit moi-même que c'était...
Oui. Et celle qui ne l'est pas, c'est celle qui, au cours d'un comité central d'entreprise, va menacer les emplois. Alors, je ne justifie pas, j'explique.
Jean-Luc Mélenchon sortait de ce corps.
Non, pas du tout. C'est une question d'humanité, tout simplement. Voilà, il faut comprendre les choses. Et aller arrêter ces gens à 6h du matin chez eux, devant leurs enfants, etc. Ils avaient commis des grands crimes. Non. non, c'était la réaction d'Air France a été très rapide.
C'est pas Air France qui a fait les arrestations.
Même si l'image de l'entreprise était en cause, et c'est bien dommage, voilà, je trouve que le curseur peut se déplacer, et quand ça se déplace vers un peu plus d'humanité, c'est mieux.
Mais c'est, franchement, le mot humanité dans cette affaire, je vois pas où il est, moi. Mais enfin, bon, je veux dire, il y a eu une violence qui me paraît injustifiée dans un débat...
Mais que l'inspection du travail ne voit pas sur les images, elle le dit, elle l'écrit.
Ah, il n'y a pas eu de violence, alors?
Si, mais il y a violence et violence, vous savez comme moi, il y a plusieurs degrés dans la violence.
Non, mais tout le monde a vu les images, il n'est pas besoin d'être inspecteur du travail pour avoir vu ça.
Bien sûr.
Ça a fait le tour du monde et ça a été la honte de la France.
In fine, la chemise a été arrachée, mais qui a commencé à pousser?
Oui, in fine, nous parlons bien de cela. Non, mais quand vous parlez quand vous contestez le lynchage, c'en était bien un tout de même.
Mais vous parlez du résultat, je le regrette, moi aussi. Mais comment ça s'est produit, c'est toute la question.
Je ne cherchais pas à édulcorer en mettant de l'humain là-dedans.
Je ne cherche pas à édulcorer. Non, mais
si je peux me permettre, sans trancher, en tout cas, ce que dit l'inspection du travail, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais elle dit que. Au vu des images, il n'y a pas eu poussée et donc on ne peut pas incriminer ce salarié puisqu'il n'a pas engendré la violence. Voilà, c'est ce que dit l'inspection du travail.
En tout cas,
ce
n'est pas la version
d'Air France qui est exactement l'inverse, évidemment.
Et nous sommes là quand même dans des situations où une marque d'autorité doit s'affirmer, surtout que ces situations de violence, alors faites par des minorités syndicales ou des minorités diversitaires ou n'importe quoi, ont toujours des excuses, ou sociales ou syndicales, ou d'oppression, ou je ne sais quoi. Et donc, il faut arrêter avec cette dialectique-là. C'est un mauvais exemple, c'est un mauvais signe donné à cette crise de l'autorité qui nous mine, qui mine la République et qui mine la nation. Et donc là, la justice se prête naturellement à nouveau à ces genres de facilité de dire qu'il y a des excuses à donner à tout le monde. Et puis, sur l'autre point, je trouve parfaitement archaïque, scandaleux, en effet, ces privilèges qui sont à nouveau perpétrés devant, pour des délégués syndicaux, alors que l'on nous bassine avec l'égalité pour tous en tout, et pourquoi pas l'égalité pour tous pour les délégués syndicaux. Je ne vois pas du tout pourquoi il y aurait ce deux poids, deux mesures, et il y a là une quelque chose de tout à fait insupportable pour moi, à la fois dans les conséquences vis-à-vis de la direction d'Air France qui ne peut pas assumer son autorité, et vis-à-vis de cette surprotection d'un délégué syndical qui n'assume pas non plus, lui, ses propres responsabilités.
Un patron doit avoir plus souvent envie de virer un délégué syndical qu'un autre salarié.
Je ne sais, c'est vous qui dites ça, je ne sais pas vous.
Aussi.
Là, vous raisonnez en slogan. Moi,
je
raisonne sur les faits que j'ai sous les
mais
yeux.
Non, mais c'est normal de protéger un salarié qui est délégué syndical, parce que par définition, il prend plus
normal,
de coups.
Mais
puisqu'il défend souvent.
Normal qu'un autre
parce
salarié,
qu'il défend
désolé.
Souvent la cause des autres salariés.
Et donc, c'est une cible. Qui n'ont pas cette protection, vous croyez qu'ils trouvent ça normal?
Oui, je pense. Non, mais la question, peut-être que c'est normal, mais la question, c'est ce que disait tout à l'heure Eric Woerth. Est-ce qu'aujourd'hui, cette protection, ils ne l'utilisent pas à d'autres fins et qu'ils sont peut-être protégés dans un cadre, et parce qu'ils bénéficient de cette protection, ils en abusent.
Ils en abusent,
c'est ça la question de ce soir. Évidemment.
On peut la prendre
comme
ça.
C'est normal qu'ils utilisent tous les recours, non,
non.
Vous seriez à sa place, à cet homme.
Un privilège qui existe encore aujourd'hui.
Un privilège, vous parlez d'un privilège pour un salarié qui a été licencié du jour au lendemain?
Mais par rapport à ses autres collègues, c'est un véritable privilège que de ne pas être sanctionné alors qu'eux le sont. Ou alors, je ne sais pas, où les mots n'ont plus de sens. Alors
on peut regretter que les autres salariés n'aient pas été privilégiés, selon votre terme, comme lui.
Écoutez, où on parle d'égalité, en fait, de l'égalité pour tous, et dans tous les domaines, où on ne parle pas d'égalité, et on remet en scène les corporatismes, les passe-droits et tout ce que l'on a connu.
Paolo.
Non, moi je pense seulement qu'aujourd'hui, la France avait tout intérêt à ensevelir une fois pour toutes cette question qui avait été décriée comme... qui avait, disons, ouvert le vase de Pandore il y a quelques mois sur les pages de tous les journaux internationaux, les clichés sur la France, etc. Et aujourd'hui, vraiment, il fallait l'apaisement, il fallait absolument...
Voilà. Le vase, si je peux me permettre, il était déjà ouvert, c'est la boîte qui n'était pas ouverte.
Ah oui, le vase,
c'est pas gentil.
Non, c'est pas gentil, mais bon, m'empêcher de ne pas être gentil, vous savez.
Je blague,
mais
pas
la boîte.
Excusez-moi l'italianisme.
Oui.
On adore.
Non. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on réouvre le débat. Tout le monde se souvient encore de cette scène pitoyable qu'on a vue à l'aéroport. Et voilà, moi je rejoins complètement, je voulais le dire aussi, on est dans une République qui a une devise très précise. Égalité, liberté, fraternité. Vous avez séduit le monde entier avec cette devise. Et aujourd'hui, on voit que cette égalité, elle est complètement bafouée. Par qui ? Par des syndicats qui devraient être en quelque sorte les dépositaires de ces valeurs. Donc, moi, je trouve qu'au-delà, disons, il y a la justice et tout, mais aussi ce monsieur, Mais avec quel courage, avec quelle bienveillance, avec quelle solidarité par rapport à ses collègues. Aujourd'hui, il se tient son petit poste et ses collègues, ils restent à la maison sans travail. Moi, je trouve d'un mauvais goût, je ne sais pas. Après, ce n'est pas à moi de juger, c'est à la justice. Mais voilà, comme ça...
Mais non, il a demandé la réintégration des quatre autres. Non, non.
On y revient dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
Et on reprend notre débat donc sur ce délégué CGT d'Air France qui donc va être réintégré dans l'entreprise après avoir été licencié grâce à l'inspection du travail. On reprend ce débat avec Yvan Youfol, Annie Lemoine, Paolo Lévy et Christian Monotto. Annie.
Oui, je voulais juste dire aussi que le syndicat majoritaire des pilotes de ligne, le SNPL, avait soutenu ses salariés en parlant même d'une vengeance de la direction, de salariés choisis au hasard. Bon, c'est bien qu'il y ait quand même des contre-pouvoirs. Et la question derrière tout ça, c'est est-ce que ça vaut un licenciement sec comme ça s'est produit ?
Qu'est-ce qui vaut un licenciement, Christian. D'ailleurs, Annie ?
Ça dépend où, ça dépend
les circonstances. Non, mais je pose la question. Pour les pilotes, c'est deux pilotes qui avaient ouvert les portes.
Oui, mais là,
il
s'agit de magasiniers. Hein, c'est la branche cargo d'Air France. Ouais, il y avait 11 avions il y a quelques années, il n'y en a plus que deux. Il y a eu 40% des postes supprimés. Il y a des situations...
Bien sûr.
Vous étiez au comité central, vous savez comment ça s'est passé ?
J'ai regardé la télé.
Eh oui, mais je pense qu'on peut déplorer la violence, la condamne.
On ne pouvait pas beaucoup y être allé parce qu'il a été interrompu avant même d'avoir commencé. Donc Annie, si je peux me permettre...
Puis en plus, un comité central, c'est réservé au personnel et à la direction de la maison, pas à nous.
On ne peut que déplorer ce qui s'est passé et le condamner fermement. Maintenant, quelle est la sanction ? Qu'est-ce que ça vaut ? Comprenez aussi la violence dont font l'objet ces salariés.
Ça, c'est vraiment facile.
Yvan,
franchement, ça, c'est la tarte à la crème de tout ce qu'on peut entendre.
Si vous
la
voulez.
Violence physique est vraiment insupportable, quoi qu'il y ait.
Vous avez raison, c'est quand les mots manquent.
Oui, Mais c'est pas quand les mots manquent, c'est parce qu'il n'y a pas d'argument, c'est pas simplement les mots, c'est parce que vous arrivez dans une sorte de confrontation où vous usez de la force pour essayer de prévaloir votre droit. Et si vous excusez ça, vous excusez tout.
La violence physique arrive quand les mots n'ont pas leur place, quand on ne sait pas trouver les mots.
Elle est condamnable, condamnez-la. Et ne cherchez pas d'excuses sociales ou d'excuses syndicales pour ça.
Parce qu'on risque ensuite, justement, de créer un précédent hyper dangereux.
Qu'est-ce que ça vaut ? Comment on sanctionne ? Qu'est-ce que ça vaut en termes de sanctions ?
On sanctionne en licenciant. Je suis désolé, mais moi, cela ne me choque pas que quelqu'un de violent vis-à-vis d'un supérieur ou d'un de ses collègues soit sanctionné.
Vous avez raison.
Pas licencié.
Les images ne l'ont pas
prouvé.
On ne
va pas l'excuser pour ça en disant que ce pauvre chirurgien avait été traumatisé ou je ne sais quoi. Il faut arrêter avec ça.
Alors, on va voir comment la justice. On va voir comment la justice Abobini va en décrypter ces images, hein, puisque je rappelle qu'il y a un procès, je crois que c'est en correctionnel, hein, je ne pense pas dire de bêtises, mais donc Abobini, et donc on va voir comment la justice le 27 mai.
Il y aura un nouvel examen des bandes, vidéo, etc.
Il risque, je crois, jusqu'à 5 ans de prison et 50 000 euros d'amende. Laissez-leur un travail pour pouvoir rembourser et pouvoir payer.
Ça rejoint donc le débat d'il y a quelques jours sur Goodyear et sur ces salariés de Goodyear qui ont été condamnés pour séquestrer leur patron. Ça revient à ce débat-là, Yvan.
Il y a d'ailleurs une contradiction dans les jurisprudences. Enfin, on voit que là, on ne sait pas si la justice doit être ferme ou si elle doit être laxiste d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut une harmonisation. Et en tout cas, moi, je ne suis pas juge, mais je ne voudrais pas.
C'est pas une décision judiciaire.
Oui,
c'est une décision de l'inspection du travail.
Administrative, donc.
Administrative.
Et justement, à propos de l'inspection du travail, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois ça encore ce soir sur la Voix du Nord. Ça mérite vérification. Mais donc, cette inspectrice du travail, elle-même serait syndiquée chez Sud.
Oui.
Bah, voyons. Donc,
ça mérite vérification, mais il y a des photos qui commencent à circuler, notamment dans la Voie du Nord, là, où on voit cette inspectrice avec le drapeau sud.
Il n'y aurait pas des sortes de scandales dans toute cette manière de
scandale, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être intrinsèque.
On ne peut pas être juge et parti, on ne peut pas être affilié à un syndicat qui est un syndicat très véhément et en même temps essayer de donner justice dans des situations complexes où la justice elle-même n'arrive pas à s'exprimer.
C'est-à-dire que le rôle de l'inspection du travail a pris une ampleur assez étonnante, puisqu'elle se substitue dans cette affaire, en tout cas provisoirement, à la justice. C'est-à-dire que un corps administratif dont je souligne qu'il est indéboulonnable, il dépend directement du ministre. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que c'est Madame El Khomri qui, en dernier lieu, tranchera de ce dossier pour savoir si oui ou non la décision.
Je lui souhaite bien du courage parce que la façon dont elle va trancher, ça va être interprété dans tous les sens.
Voilà, elle va peut-être reporter sa décision jusqu'au jugement judiciaire, on verra bien.
Mais Éric Bern voulait qu'elle décide dans les heures qui viennent, hein, nous a-t-il dit tout à l'heure.
Ça me paraît un vœu pieux. Mmh. Mais donc, on voit bien la complexité de cette affaire. C'est-à-dire qu'on a un corps administratif qui lui-même a des volontés parfois syndicales très affirmées, qui ne dépend de personnes, sinon du ministre. Ils ne sont pas révocables, eux-mêmes ne sont pas révocables. Et donc, ils portent là un jugement dont je pense qu'il vaut mieux maintenant attendre, très tranquillement. On aurait pu attendre qu'ils statuent en disant il reste non pas licencié, mais mis à pied, le temps que la justice décide définitivement de ce dossier. Et puis on donne le dernier mot à la justice de la République, et puis on voit après.
Ça aurait été peut-être raisonnable. Dans un instant, on va parler de ces hommes politiques qui s'épanchent dans des livres. Nicolas Sarkozy demain, Jean-François Copé hier. C'est tendance.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
19h38, on refait le monde ce soir avec Paolo Lévy, Annie Lemoine, Yvan Rioufol et Christian Monanto. Les politiques ne craignent pas la page blanche après Fillon, Juppé, Copé. Sarkozy s'apprête donc à publier lundi prochain La France pour la vie. À quelques mois de la primaire à droite et à 2 ans de la présidentielle, les politiques investissent donc les librairies pour faire leur autocritique ou proposer des solutions. Le livre politique, une passion française. Alors, est-ce que c'est vraiment efficace pour nous avec les électeurs sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret ?
Si c'est pour s'excuser, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mieux vaut Qatar que jamais, écrit Tognol. Mais beaucoup se moquent, parlent d'étalage d'ego. Jack leur répond, vous l'avez lu par exemple, le livre de Sarkozy ? Non, alors bouclez-la. Pour info, il est même pas encore paru et déjà en tête des ventes sur Amazon. Et puis ça fait une plombe que vous lui réclamez tous un bilan. Eh ben le voilà, renchérit Eto. Moi j'ai du respect pour tous ces hommes politiques qui, en plus de leurs multiples mandats, ont le temps d'écrire des livres programmes super chiadés, ricane Yves. Jaco est plus cash encore. Les livres politiques sont toujours un tissu de mensonges. Il faut boycotter ces bouses. J'arrive déjà pas à finir 50 nuances de grès. Alors un bouquin politique, non merci, soupire Catherine. C'est vrai que ce sont souvent des échecs en termes de vente, mais Andrea y voit une utilité. C'est surtout pour dire qu'ils ont théorisé leurs idées et posé sur papier en toute transparence et que ça reste accessible, dit-elle. Pour Henri, un livre politique, c'est surtout un prétexte pour se faire inviter. Pas franchement de la littérature à message, sauf pour les médias. Les idées couchées sur le papier pèsent peu sans méthode, sans consensus, sans audace, et il en faudra pour que ces livres de reconquête ne soient pas juste des arbres qu'on abat, conclut Rémi Godot de l'Opinion.
En tout cas, moi, ça me donne des possibilités de recevoir des gens sur mon divan, donc je suis très satisfait de ces livres politiques.
Quel boulot !
C'est formidable,
qu'il continue. Pour 10 ans encore.
Annie Lemoine, donc cette nouvelle tendance, enfin, si, pas si nouvelle que ça d'ailleurs, mais là, il se trouve qu'ils s'enchaînent, ces livres. Vous comprenez ? Vous trouvez ça ridicule ?
Ridicule, non, mais ça fait partie du panoplie de l'homme politique. À quoi ça sert ? C'est la question. Oui, oui, absolument. Il est le conseiller en communication, va dire oui, oui. Alors le livre, c'est le. Voilà, on va le sortir à tel moment parce que le timing est très important. Dans chacun des trois cas là, qui nous préoccupent ce soir, c'est trois analyses différentes. Enfin, Sarkozy regarde derrière. Est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas. Ça semble une carte de la dernière chance. Barbara a chanté ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, mais c'était la fin de sa carrière et la salle était pleine. Copé, vous le savez mieux que moi, c'est retour sur un trauma. Hein, c'est...
Ah non, non, parce que le livre, c'était pas ça. Le livre, c'est un livre programmatique,
oui,
où il revient un peu sur le trauma.
Un petit peu avec son livre, il explique que c'est la résilience, etc.
Ah oui,
c'est,
la très, bienveillance,
c'est le terrain psy qui est investi. Et puis, en ce qui concerne Alain Juppé, alors là, c'est extraordinaire, c'est Superman, c'est 7 livres en un an, c'est vraiment j'ai des idées, regardez. Et il en a d'ailleurs.
Et
donc,
Fillon,
c'est trois terrains différents. Maintenant,
Fillon.
Voilà, alors à quoi ça c'est sert vrai. Et le Fillon que
On a dit qu'il n'a pas si mal marché. Ce que ça voir bien. 90 000, j'ai un peu des doutes, moi. Mais
je trouve ça, enfin, le seul intérêt, c'est de se faire inviter sur les plateaux. Vous savez de quoi on parle. Bon, occupation de l'espace médiatique. Maintenant, est-ce que c'est une façon de séduire les Français ? Je ne le pense pas. Je crois que c'est l'occasion de sonder son rapport aux Français, mais pas de le transformer.
Déjà, éliminons un aspect du problème, c'est que ce n'est pas de la littérature. C'est donc de la communication. Donc on est dans un domaine plus familier, parce qu'on voit bien naturellement la grosse ficelle de dire qu'on va retisser les liens avec la France, qui est cette vieille nation littéraire, de qui il faut d'abord visiter les auteurs. Et c'est vrai d'ailleurs, pour bien comprendre son âme, je comprends bien tout ça, mais il n'y a plus de Chateaubriand auprès de nous. Enfin, en tout cas, ça m'a échappé. Donc, voilà.
Je cherche un contre-exemple juste pour le plaisir de dire, mais je ne vois pas.
Je ne crois pas qu'il y en ait, non. Non, alors d'accord, des livres, pourquoi pas, encore pour savoir ce qu'il y aura dedans, moi je ne suis pas sûr de me précipiter pour les lire, Parce que d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moyen de communication aujourd'hui. Je crois que c'est un moyen un peu désuet. D'abord, il y a une sorte de mimétisme qui est vraiment presque amusant de voir que chacun d'entre eux se copie et sort un bouquin parce que l'autre l'a sorti. Donc, on voit qu'ils agitent leur petit drapeau pour faire croire. Mais est-ce que l'on est dupe ? Je ne crois pas. Et puis surtout, est-ce que ça me semble pas être un bon moyen de communication dans la mesure où tous ces hommes-là ne sont plus des hommes providentiels. Tous ces hommes-là, en fait, n'ont plus d'idées originales. En tout cas, leurs idées ne leur appartiennent plus. En fait, leurs idées, elles sont même sans doute ailleurs que dans leurs livres.
Mais donc, est-ce que dans cette société de communication qui va si vite, on parle de BFMisation de l'information, est-ce que ce n'est pas juste simplement une façon pour eux de justement approfondir et aller au bout de leurs idées qui n'ont plus le temps de donner dans les médias puisqu'ils ne font que du commentaire qui est vite balayé par le prochain commentaire, non ?
Écoutez, je ne peux pas en parler, je ne les ai pas lu. Il est possible, en effet, qu'il y ait ça, mais ce qui serait très décevant, en tout cas singulièrement pour Nicolas Sarkozy, qui joue son va-tout là-dessus, c'est que si son bouquin est plat, il aura vraiment utilisé sa dernière cartouche. Donc j'espère pour lui, enfin pour son ambition, qu'il va au bout de ses mea culpa s'il les a annoncés et de ses gratifications personnelles. Mais ça reste des documents qu'on peut relire et donc il faut toujours faire très attention aux bouquins malgré tout parce que ça laisse des traces et on peut se replonger sur ce qu'ils ont pu dire, comme pour les journalistes d'ailleurs. Et donc ça peut leur retomber sur le nez. Mais très franchement et au-delà de tout ça, je pense que ce n'est pas le bon moyen aujourd'hui. J'y vois beaucoup un artifice, et je pense qu'un homme politique aujourd'hui, s'il veut comprendre la France, il doit se mettre à l'écoute des Français. On a eu cette discussion il n'y a pas longtemps ici même, et je pense que c'est plus davantage en écoutant les Français plutôt que d'en écoutant sur leur propre ego ou leurs propres intuitions qu'ils trouveront à faire un programme.
Paolo Lévy, comment il s'appelle, Berlusconi, là, a sorti un livre chez vous, là, il y a quelques semaines.
Ils se sont tous mis à réécrire, ouais. Y compris Berlusconi. Et voilà, et maintenant on retrouve ici en France des leaders de la droite qui écrivent leurs livres, notamment Sarkozy, on en parlait presque plus, et effectivement, là, d'un moment à l'autre, on parle de lui, de son livre, donc déjà ça, disons d'un point de vue de la communication, apparemment ça a bien marché. Après, il y a une chose, je veux dire que les grands hommes politiques, normalement, ils sont rappelés par le peuple pour qu'ils retournent gouverner. On pense à Clémenceau, on pense à De Gaulle. Et là, j'ai l'impression que tu as tous ces hommes politiques de dernière génération, d'avant-dernière génération, Fillon, Sarkozy, etc., qui, eux, au contraire, viennent commander presque un retour, etc. Ça, c'est la grande différence par rapport aux grands hommes et aux grands hommes d'État de notre passé.
D'abord, moi, je considère que cette littérature, entre guillemets, bien évidemment, c'est bien sûr du marketing. Mm-hmm. On est en train de parler d'un outillage marketing, du marketing politique assez sophistiqué. Parce que si on réfléchit bien en ce moment, de quoi parle-t-on tout le temps ? Internet, réseaux sociaux, etc. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que tout passe par le bon vieux bouquin qu'il faudrait théoriquement aller commander à son libraire de quartier, etc. etc. Ce que on le fait évidemment jamais. Alors les tirages sont souvent annoncés faramineux. Dans la réalité, ils sont évidemment beaucoup moins prestigieux. J'ai regardé pour le Mariton, par exemple. Mm-hmm. Le Mariton, c'est la chance, je sais pas, c'est un truc à droite, j'ai oublié. La chance à droite, ou le bonheur à droite, ou l'avenir à droite. C'est 2500 exemplaires tout habillés, c'est-à-dire théoriquement, il n'y en a pas 2000, quoi.
Et c'est mieux que Cambadélis.
C'est probablement mieux, oui, qu'elle a fait une centaine, c'est ça, oui. Donc, on voit à peu près ce que ça donne, mais il n'empêche ce que ça fait ce que nous faisons en ce moment. C'est-à-dire que ça ouvre un émetteur et tous les commentateurs sont sur ces bouquins qu'ils n'ont en général pas toujours lus, voire très rarement.
Les bonnes feuilles.
On a lu les bonnes feuilles.
Le bonheur regarde à droite, non ?
Voilà, c'est le bonheur regarde à droite, absolument. Et donc, j'avais oublié si c'était le bonheur ou le malheur.
Le bonheur regarde à droite.
Donc, voilà, c'est un des deux. Donc là, il avait choisi le bonheur. Donc, mais ça ne dépasse pas les 2000, quoi, cette affaire. Mais
2000, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, mais on ne sait pas qui achète. Vous savez, vous avez toujours un fan club et puis vous avez un sous-parti.
Moi, j'en ai à peine vendu plus du mien que j'avais fait là, il y a quelques années.
Oui, c'est vrai.
Ouais, à peine plus que 2000. Et on était très satisfaits déjà.
C'est vrai. Mais c'était un roman.
Non, c'était pas du tout un roman.
Ah non, c'était là, c'est pas un roman, c'était ma vie et c'était pas du tout un roman.
Mon œuvre.
Mais c'est votre vie, mon cher ami,
est un roman. C'est ça. Donc voilà. Donc je me demande si vraiment c'est pas la dernière grande astuce, c'est-à-dire ce retour vers le passé. Quoi. Mm-hmm. On va abattre des arbres et puis c'est beaucoup plus viral que l'internet. Quoi. C'est formidable.
Allez, dernier sujet. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. Matteo Renzi qui s'en prend à l'absentéisme dans la fonction publique italienne. Et si on s'en inspirait, on en débat dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
À 19h49 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Annie Lemoine, Christian Menanto, Yvan Rioufol et Paolo Lévy. 48 heures chrono après plusieurs scandales sur l'absentéisme des fonctionnaires italiens. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, va employer la manière forte. Désormais, il sera possible de suspendre en 2 jours les représentants de l'État qui ne se rendent pas au travail. Et ceux qui les couvrent, ils seront ensuite virés en 30 jours s'ils ne peuvent pas justifier leur absence. Vous avez entendu tout à l'heure Anne Lenir nous raconter tout ça dans le journal de 18h. Alors, si on faisait la même chose en France sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ça me paraît une excellente chose. Chiche, on fait pareil en France. Madame Lebranchu encourage en effet PM. Moi aussi, j'ai fait un rêve, mais les politiciens français sont trop calculateurs pour leur petite carrière, grince Eric. Si en effet aussi, ici, des fonctionnaires vont se recoucher ou à la pêche après avoir pointé, je vois pas pourquoi on pourrait pas les virer illico, admet Fanny, mais Bernard Tempère. Il faut dire que l'absentéisme est une plaie en Italie. Rien à voir avec chez nous. 15% dans le public, 8% dans le privé là-bas, contre 4% en France. Chez nous aussi, ça existe, assure pourtant Tino. Je suis fonctionnaire et nous sommes les premières victimes de cet absentéisme. J'en ai assez de bosser pour d'autres qui profitent de notre statut protégé, lâche-t-il. Mich s'énerve car nos socialistes, défenseurs des pauvres et des fainéants ne voudront jamais faire ça. Mais Laurent est allé chercher les vrais chiffres dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2015. Les fonctionnaires ne sont pas plus absents que les salariés du privé, assure-t-il. En fait, les fonctionnaires sont plus souvent en arrêt maladie que les salariés du privé, mais plus brièvement. Donc stop aux clichés, demande Jarod pour finir.
Allez, ça se passe d'abord chez vous. Alors commençons par vous, Paolo Lévy. Cette décision italienne, déjà, vous la saluez ?
Écoutez, tout d'abord, il faut considérer que Renzi est un grand communicateur. Donc s'il a fait ça, c'est aussi parce qu'il y a derrière tout un calcul politique. Il y a eu des scandales il y a quelques mois, avec des fonctionnaires qui pointaient et ensuite partaient à la plage ou faire du kayak ou avec la planche de surf, surtout ceux qui ont la chance d'avoir une administration et un bureau tout près de la plage, il y en a beaucoup en Italie, et tout cela a lancé un débat très très virulent dans les journaux et voilà, dans ce climat d'essor, des populismes, etc., Renzi aujourd'hui se joue la carte du Savonarole contre ces affreux, sales et méchants fonctionnaires
truffatori,
les petits malins, qui sont effectivement beaucoup plus en Italie qu'en France.
Donc c'est de la com, déjà.
C'est de la com, mais c'est aussi... qui se traduit aussi dans des mesures concrètes. Je veux seulement rappeler qu'une loi existait déjà contre les absentéistes, mais en fait, les directeurs des fonctionnaires qui pointaient ensuite partaient, les couvraient toujours, parce que c'est... Aujourd'hui, avec cette réforme de Renzi, non seulement on pourra chasser dans les 48 heures les fonctionnaires même défaillants, mais aussi leurs chefs. Mm-hmm. Donc ceux qui ne veillent pas au respect. Ouais. Et donc c'est ça la vraie révolution.
Apparemment, en Italie, c'est quand même un sport national. Ça s'appelle le pointage confraternel. Et donc l'administration publique. Ça m'amuse beaucoup parce que vous avez mauvaise réputation. Mais bon, écoutez, vous vous appelez Matteo Renzi. Vous avez Bruxelles sur le dos. Qui a sorti son stylo rouge et qui vous dit le déficit public, ça coûte cher. Les fonctionnaires. Alors, vous êtes tenté quand même. Surtout quand vous voyez. Il y a un phénomène incroyable qui se passe chez vous en ce moment. Vous avez évidemment entendu parler de Covado.
Et oui.
Le film italien. Qui se moque, ça fait un carton plus fort
que
Star Wars,
voilà,
et que Titanic. Enfin bon, c'est le carton absolu en Italie.
C'est quoi ?
C'est l'histoire d'un petit fonctionnaire qui, c'est une grosse comédie, qui distribue des cartes de chasse et pêche et dont l'emploi est menacé et donc il va accepter un emploi en Norvège. Enfin, et l'Italie se tord de rire. Tous les Italiens, il y a 10 millions d'Italiens qui sont allés le voir. Déjà. Et donc vous vous dites, si vous êtes Renzi, qui a vu le film d'ailleurs en famille, ah tiens, c'est peut-être le moment finalement. Hein, les Italiens sont prêts à faire leur psychanalyse. Et donc vous prenez une mesure comme celle-là qui vous aide à liquider à peu de coûts des fonctionnaires qui, effectivement, profitent un petit peu trop de leur statut.
Et nous, Christian, on peut transposer ça ici ou alors c'est hors de propos ?
On pourrait et on va voir si Valls, qui a beaucoup d'admiration pour Renzi, je crois qu'il le suit beaucoup et qui regarde ce que fait Renzi de très près, il aura je crois, dans les semaines qui viennent, très très prochainement, un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique sur ce thème, très précisément, parce que effectivement, quand même, il y a une succession de rapports de la Cour des comptes, notamment des cours des comptes régionales, qui a fini par s'accumuler, et la conclusion, c'était que énormément de collectivités ne remplissent pas encore les 1600 heures de travail annuel qui sont la durée légale obligatoire dans la fonction publique. Et donc, il s'agirait quand même de, plutôt que de réembaucher encore des fonctionnaires, compte tenu de l'état de nos finances, de mettre un petit peu tout le monde au niveau de la loi, simplement de la loi. Il ne s'agit pas d'aller au-delà, donc ça fait 35 heures par semaine effectives. Donc je pense qu'il aura ce rapport très bientôt, et je pense qu'il prendra certainement des décisions probablement moins brutale que celle de Renzi, parce que je pense qu'il y a peu de fonctionnaires qui vont avec une planche de surf.
Vous pensez qu'à un an et demi de l'élection présidentielle, il va prendre cette décision-là ?
Non, il peut simplement demander que chaque... il peut simplement demander, parce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire, que les collectivités territoriales, par exemple, fassent respecter la loi, ce qui est la moindre des choses, 1600 heures par an. Mais simplement pour vous dire, nous avons 72 agents du service public en France pour 1000 habitants. C'est évidemment le ratio le plus élevé d'Europe. Il est bien plus élevé, par exemple, qu'en Italie.
Ah oui, oui, mais enfin, dans les pays du Nord, c'est encore plus...
Non. En Suède, par exemple, il n'y a pas de fonction publique. Vous avez des contrats avec la fonction publique. Vous n'avez que quelques fonctionnaires d'État sur des missions régalières.
Au Danemark, ce n'est pas le cas. Enfin,
je parle de la Suède, par exemple.
Allez-y, Paolo, avant
Pardon, Yvan. Pardon. Je ne veux pas défendre les passionnés de surf, mais juste pour me faire... juste un instant, l'avocat du diable, il faut aussi dire qu'il y a un vrai problème de la fonction publique aujourd'hui en Europe. Il y a trop de fonctionnaires. Allez. Il faut rationaliser ça.
C'est un serpent de mer.
On termine avec Yvan, il reste une minute.
Se retrouve à chauffer la chaise.
Oui, bien sûr. Chez nous aussi.
Yvan,
il y a un très bon bouquin sur ça.
Non, il reste Yvan pour une minute.
Pardon.
Je vais simplement redire que d'être fonctionnaire, ce n'est pas un filon, naturellement. Donc, je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, à échéance de ces élections, il ne serait pas interdit à un chef de gouvernement de dire qu'effectivement, il est amoral dans cette profession qui a déjà l'emploi à vie d'aller travailler comme tout le monde. Donc il ne faudrait pas non plus tomber. Vous avez parlé de populisme en disant que ce serait des mesures populistes que de dire de traquer ces fraudes et ces vols. Dans le fond, ce sont des vols. Et vous, il n'y a rien de populiste là-dedans. C'est simplement un bon sens, et c'est de la morale à appliquer à la fonction publique, et je ne vois pas pourquoi les fonctionnaires pourraient se trouver affligés d'appliquer cette justice élémentaire à ceux qui les représentent. C'est toujours la même chose. Donc j'imagine qu'il y a des fonctionnaires qui font leur travail.
Ah oui. La majorité d'entre eux,
la majorité, ouais, peut-être,
bien sûr.
La majorité, bien sûr. Mais enfin,
parce que la fonction publique marche bien en France, globalement.
C'est aussi en France qu'il y a des graves problèmes d'absentéisme, notamment dans l'éducation nationale. Il y a les reportages sont là pour le dire à chaque fois. Donc il serait bien aussi de voir là-dedans s'il n'y aurait pas quelques sanctions à prendre éventuellement.
Merci à tous les quatre, à Yvan Rioufolla, à Annie Lemoine, à Paolo Lévy, à Christian Menanto.